Bonsoir, merci à tous d'être là et merci à Françoise Bressa de m'avoir ouvert les portes de l'Université Populaire. Comme vous avez pu le voir dans le programme, je vous propose un cycle de 3 séances et il me faut faire d'emblée un certain nombre de précisions logistiques. Nous venons de nous retrouver, j'ai pas envie de vous perdre tout de suite. Donc, je reprends. La séance de la semaine prochaine est décalée à la semaine suivante. Il n'y aura donc pas d'intervention le 9 mai, mais le 16 mai. Toujours ici, c'est un mercredi soir de 19h à 21h, comme tous les cours de l'Université Populaire. Voilà, donc c'est juste là, pour le coup, un décalage d'une semaine. La troisième et dernière séance aura donc lieu, non pas le 16, mais le 23 mai. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, au lieu de clore ce cycle, cette dernière séance l'ouvrira sur un festival dont Françoise vient de vous parler, qui est le festival Europe et compagnie, qui se lance justement le 23 mai avec un spectacle de théâtre intitulé « Pays natal » que je vous propose de rejoindre à la salle Rameau dès 20h30. Vous pouvez voir sur le site de l'Université Populaire, qui est définitivement une mine d'informations, un court extrait vidéo de ce spectacle qui illustre à la perfection ce dont j'avais envie de vous parler pendant cette dernière séance sous un titre un peu énigmatique, imaginez Babel heureuse et postcoloniale. Si vous voulez avoir une idée d'à quoi ça peut bien ressembler, regardez donc un extrait de ce spectacle que nous pourrons aller regarder ensemble le 23 mai. Donc, pour récapituler, nous sommes le 2 mai. La prochaine séance aura lieu le 16, toujours ici, et la troisième et dernière, le 23. Ça nous permettra de rejoindre le festival Europe et compagnie. Maintenant que nous avons désorganisé l'ensemble, essayons de trouver quand même un principe d'organisation. Les 3 séances que je vous propose s'inscrivent dans le thème général de cette année, je vous rappelle, pouvoir et contestation, en l'abordant sous l'angle du langage, ou plus précisément des langages. Nous savons tous à quel point la maîtrise des mots peut servir comme une arme, que ce soit pour exercer un pouvoir ou pour le contester. Or, la littérature est une forme très particulière de pouvoir sur les mots qui bouscule l'ordre quotidien des discours et qui modifie notre imaginaire de ce qu'est la langue. C'est du moins ce que j'aimerais démontrer avec vous en explorant la force de subversion ou de contestation du texte littéraire. Mais avant d'attaquer notre objet du jour et de nous relancer dans le vif des débats, je vais prendre un moment pour vous expliquer d'où je parle, ce qui éclairera sans doute la manière dont je vous propose d'aborder le thème de cette année. Attends, d'où est-ce que je parle ? Quand je ne suis pas à l'Université Populaire, j'enseigne en ce moment à l'École Normale Supérieure de Lyon et mon domaine de spécialité est la littérature comparée. Vous avez sans doute pu lire cela dans le programme et je pense qu'il est peut-être bon de s'arrêter sur cet intitulé parce que si on imagine assez bien ce qu'est la littérature comparée peut sembler un peu plus mystérieuse et énigmatique. En fait, en France, quand un universitaire dit qu'il est spécialiste de littérature, ça veut dire qu'elle ou il est spécialiste de littérature française. Les spécialistes de littérature étrangère se trouvent dans les départements de langue. La seule exception, ce sont les comparatifs, qui travaillent précisément à la croisée de littérature écrite dans différentes langues et venue de différents endroits du monde. Les comparatifs ne s'en tiennent d'ailleurs pas exclusivement à la littérature. L'ensemble des œuvres artistiques peut être pris en considération. La littérature comparée, en fait, c'est tout d'abord une espèce de gymnastique. Preuve. La gymnastique du comparatif consiste, dans un premier temps, à être capable de tenir simultanément ouvert tout un ensemble de livres qu'il va bien évidemment, par définition, falloir comparer. Voilà, je vous montre. C'est à ceci que ressemble un bureau de comparaison. Alors, le rapprochement entre ces différentes œuvres ou ces différents ouvrages peut se faire selon différents principes. Une première manière d'effectuer la comparaison se fait sur une base thématique. On peut comparer différentes œuvres sur un sujet comme celui-ci, par exemple. La représentation du pouvoir dictatorial dans les romans africains et caribéens des années 70 à 90. Il s'agit d'une thèse d'Ibrahima Diouf soutenue en 2011. Un rapprochement thématique, donc. On peut aussi rapprocher ces différentes œuvres sous l'angle d'un genre, par exemple, le pamphlet contestataire dans l'Europe du XVIIIe siècle. Ça doit être une assez mauvaise idée parce que je l'ai inventé, je l'ai trouvé nulle part. Si personne ne l'a fait, c'est sans doute que ce n'est pas une très bonne idée. On peut aussi rapprocher des œuvres sous l'angle d'une poétique, c'est-à-dire d'une caractéristique qui tient à l'écriture des textes. Dans ce cas, on peut rapprocher par exemple des romans et des recueils de poèmes, donc des œuvres qui ne partagent pas un même genre, et qui traitent de différents sujets, qui ne peuvent pas donc être rapprochés sous un angle thématique, mais qui ont en commun un principe d'écriture. Dans mon travail de doctorat, par exemple, j'ai travaillé sur des textes littéraires écrits simultanément dans plusieurs langues différentes. Ce sont des textes qu'on qualifie souvent de post-coloniaux, non pas tant parce qu'ils ont été écrits après l'ère des indépendances coloniales, mais surtout parce qu'ils contestent le pouvoir impérial. Leur esthétique, cette écriture à la croisée des langues, a donc directement un enjeu politique, y compris dans le cas de la poésie. Je ne développe pas davantage parce que je pourrais vous en parler des heures et parce que j'y reviendrai lors de la dernière séance, mais par contre je ne résiste pas au plaisir de vous lire la première strophe d'un poème de Paul Celan qui s'appelle In Ein et dans lequel vous allez pouvoir entendre à la fois de l'allemand, de l'hébreu, du français et de l'espagnol. Paul Celan, In Ein. 13. Februar. Im Herzmund erwartet Schibboleth. Mit dir, peuple de Paris, no pasarán. Traduction de Martine Broda, tout en un. 13 février, dans la bouche du cœur s'éveille un shibboleth avec toi, peuple de Paris, no pasarán. Bon. Plaisir du texte. Revenons au principe de la comparaison. Nous avons vu les différentes justifications pour constituer un corpus comparatif. Reste maintenant à savoir comment opérer la comparaison. Dans la vie de tous les jours, on compare le plus souvent pour évaluer, pour hiérarchiser ou pour s'approprier plus facilement quelque chose d'inconnu. On comparera par exemple Pierre à Paul pour savoir qui est le meilleur et à qui on mettra une meilleure note. On compare la glace à la vanille et la glace à la fraise pour choisir celle qu'on préfère. Ou encore, on comparera Paris et Ispahan pour se sentir moins perdu dans une ville qu'on ne connaît pas. A l'inverse, le comparatisme en littérature devient vraiment intéressant quand il mène à l'inconnu. Ce qui m'intéresse dans la comparaison, c'est sa valeur de contraste. C'est le moment où elle permet de souligner la différence entre les différentes œuvres qu'on tient ensemble et quand elle souligne aussi les aspérités de chacune de ces œuvres qui apparaissent de manière moins évidente quand on les envisage isolément. On ne compare donc pas pour évaluer ou pour hiérarchiser les œuvres, mais pour renouveler la manière de les lire et pour les mettre en perspective. Le comparatisme, donc, permet de secouer les idées reçues. Cette fonction critique du comparatisme n'est pas spécifique à la littérature comparée. Marcel Détienne, qui est anthropologue et helléniste, écrit dans un petit ouvrage intitulé « Comparer l'incomparable », un programme qui me semble réjouissant, qui tient en deux lignes et que je me propose de vous lire. Je le cite. Il y a une valeur éthique de l'activité comparative que je veux défendre. C'est qu'elle invite à mettre en perspective les valeurs et les choix de la société à laquelle on appartient. Je suis persuadée que le détour par la littérature comparée permet de regarder différemment le monde dans lequel nous vivons. Mais trop souvent, l'enseignement et la recherche restent confinés dans des salles de classe et des cénacles fermés. On apprend très bien à lire les textes littéraires, mais on enseigne assez mal la manière dont ces textes nous apprennent à changer le monde. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup à apprendre de nos échanges. Je crois qu'il y a une véritable urgence à interroger la responsabilité sociale et politique de la littérature et de la littérature comparée. Notre mission, si vous l'acceptez, sera de préciser en quoi la lecture littéraire permet de renouveler les débats qui concernent la société. Nous arrivons, après cette longue présentation et l'arrivée de Romain, à notre objet du jour. Je me suis dit que nous pouvions entamer la réflexion en observant la manière dont les médias traitent ce qu'on appelle de plus en plus souvent la langue des banlieues ou la langue des jeunes des cités. D'où mon titre à la Paris Match, Le poids des mots, le choc des banlieues. Il s'agit, sous cet intitulé volontiers et volontairement provocateur, de dévoiler les idées reçues et les présupposés qui sont tapis sous les discours qui déplorent la pauvreté de la langue des jeunes qu'on appelle de banlieue. Je précise d'emblée qu'il ne s'agit pas de nier ni de minimiser la difficulté dans laquelle se trouvent celles et ceux qui ne maîtrisent pas le français standard, parce qu'il y a bien là un facteur d'exclusion, mais de se donner les moyens de bien poser les problèmes. À défaut de bien poser les problèmes, me semble-t-il, on risque, sinon, de renforcer l'exclusion au moment même où on la déplore. J'ai indiqué dans la bibliographie que je vous ai distribuée trois références, c'est ce que vous trouvez sous le premier intitulé « Trois cas d'école ». Vous voyez mentionner deux articles qu'on trouve facilement sur Internet, et un ouvrage que je ne vous conseille pas d'acheter, de Cécile Ladjali, « Mauvaise langue ». On pourrait multiplier les exemples, et sans doute que vous avez en tête des articles plus récents, dont nous aurions pu parler aussi, mais ces trois-là m'ont semblé constituer de bons cas d'école. La lecture de cet ouvrage, de Ladjali, et des deux articles, je vous rappelle les titres « Contre les ghettos linguistiques » d'Alain Bentolila et « Vivre avec 400 mots » de Frédéric Potet, reposent sur au moins 6 présupposés qu'ils ont en commun et que je vais décliner maintenant. Le premier présupposé, partagé par ces trois textes, c'est un présupposé d'homogénéisation. Le discours qui porte sur la langue des banlieues écrase les différences. On oublie qu'il y a autant de langages que de banlieues. L'article intitulé « Vivre avec 400 mots » s'efforce certes de distinguer entre Grenoble, Caen et Paris, mais au fond, la question semble toujours revenir au même, et surtout, on suppose des communautés linguistiques absolument homogènes au sein de chacune de ces banlieues. Je cite ici l'article d'Alain Bentolila qui prétend qu'en banlieue, la langue, je cite donc, ne sert à s'adresser qu'à des individus qui vivent comme eux, qui croient en le même Dieu qu'eux, qui ont les mêmes soucis et la même absence de perspective sociale, et que donc tout va sans dire. Cette homogénéisation de l'ensemble des banlieues et des communautés linguistiques à l'intérieur de chaque banlieue débouche sur une opposition qui semble irrémédiable entre eux et nous. Ce « nous » n'est jamais inclusif, et se positionne toujours de manière surplombante. Dans l'article « Vivre avec 400 mots », elle décrit l'espace adolescent de Grenoble qui est placé sous la tutelle du comité dauphinois d'action socio-éducative. Et voici ce qu'on peut lire. Je cite « La plupart des adolescents qui arrivent ici présentent des difficultés avec la langue française à laquelle ils ont substitué une langue des cités, souvent comprise d'eux seuls. » Le dialogue semble irrémédiablement impossible. Le journaliste se positionne à l'évidence radicalement en dehors de ce groupe de jeunes et il suppose que ses lecteurs n'en font pas partie eux non plus. Bentolila, de son côté, affirme qu'il n'est pas question de tenir sur le langage dit des cités, des banlieues ou des jeunes un discours de mépris et pourtant, la troisième personne du pluriel, « il », qu'il emploie toujours pour les désigner, les transforme en des êtres souvent quasi inanimés et toujours soigneusement maintenus très loin. D'où sans doute le type de locution que je cite, les jeunes de ces quartiers ghetto, comme s'il s'agissait d'enclaves, fermées sur elles-mêmes et très lointaines. Troisième présupposé, on constate dans chacun de ces trois textes une essentialisation des identités. Le meilleur exemple se trouve à la page 12 de l'ouvrage « Mauvaise langue » où l'on peut lire, je cite, « Le barbarisme préfigure la barbarie ». Il y a donc là un glissement d'une manière de parler à une modalité d'existence, à une identité qui semble à la fois figée et imposée de l'intérieur. C'est d'autant plus froid dans le dos que je vous rappelle que « barbare » est la manière dont les Grecs anciens désignaient les étrangers parce que ce sont ceux qui parlent une langue qu'on ne comprend pas en faisant des bruits d'hirondelles, barbare, 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 les barbares. C'est donc une manière de dire que ceux qui parlent une autre langue sont par définition et de manière essentielle des étrangers. Quatrième présupposé. Les trois textes considérés passent sous silence avec une surdité remarquable les autres langues maîtrisées par celles et ceux dont on feint de croire qu'ils n'ont qu'une langue mal maîtrisée sans jamais prendre en compte l'ensemble des autres compétences linguistiques. Bentolila n'envisage que, je cite, « de jeunes adultes de langue maternelle française ». Le titre « Vivre avec 400 mots » suggère à lui seul qu'on ne peut pas vivre avec un lexique aussi peu fourni. On peut regretter sans doute la pauvreté d'un vocabulaire. Mais je peux vous prédire que notre ancien président, aujourd'hui candidat à sa propre succession, n'en utilisera pas davantage ce soir au cours du débat télévisé. Si vous vous référez en effet à l'ouvrage de Calvet et Véronique qui figure lui aussi dans la bibliographie sous le titre « Les mots de Nicolas Sarkozy », vous apprendrez que notre ancien président n'a jamais utilisé plus de 400 mots lors de ses discours et de ses allocutions. Il s'agit d'un ouvrage absolument remarquable, dont la lecture est à la fois terrible et réjouissante, qui montre bien qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le quantitatif en matière lexicale et l'efficacité. Cinquième présupposé. Ces trois textes soupçonnent qu'il y aurait une corrélation entre la manière de parler de ces jeunes de banlieue et une forme d'impossibilité à penser. On peut lire, par exemple, et de manière explicite, dans l'article d'Alain Bentolila, je le cite, « Des hommes et des femmes dont les pouvoirs linguistiques respectifs sont devenus tellement inégaux que la notion même d'intelligence collective risque de se trouver gravement mise en cause. » Un peu plus loin, je cite toujours, « Un vocabulaire exsangue et une organisation approximative des phrases qui conduit à renoncer à imposer leur propre pensée à l'intelligence des autres. » Il mêle à ces considérations pseudo-linguistiques un argument fallacieux et qui n'est plus du tout d'ordre linguistique, en prétendant que ces populations, je cite toujours, « savent de moins en moins qui elles étaient, d'où elles venaient et où elles allaient. » Dans l'article « Vivre avec 400 mots », on peut lire, je cite, « De la carence orale à la violence physique, le pas peut être rapide. » Mais quelle est la cause et quelle est la conséquence exactement? Surtout, et c'est le sixième et dernier présupposé commun que j'aimerais dénoncer, on constate une manière de systématiquement dépolitiser l'enjeu de la question. Bentolila parle de manière systématique de situations d'inégalité linguistique, de distribuer de manière plus équitable le pouvoir linguistique, alors que ce ne sont sans doute pas d'abord des discours qu'il s'agit. L'article « Vivre avec 400 mots » parle de fracture linguistique, là où on aurait pu s'attendre à d'autres types de qualificatifs. Il semble que la banlieue ne constitue plus un espace social, ni la résultante de décisions politiques, mais simplement un terrain d'investigation linguistique. Plus fondamentalement, il me semble que ces trois textes reposent sur la certitude qu'il n'existe qu'une seule et unique norme légitime de la langue française, dont les frontières sont des frontières nationales et qui assurent une identité de français. Il existerait donc un bon français qui serait l'unique vrai français. Les autres manières de parler constituant une autre langue et un indice du fait qu'on est étranger. Ce qu'on voit donc à l'œuvre dans ces articles, c'est, me semble-t-il, une manière de rassurer les frontières de la langue. En ce sens, Le prix remporté par l'ouvrage de Ladjali est révélateur. Je l'ai indiqué dans la bibliographie, le livre a reçu le prix Femina pour la défense de la langue française. Pourtant, celles et ceux dont on parle dans ces articles ne parlent pas une autre langue. Ils parlent la même langue autrement. Mais on ne peut pas entendre ni admettre la possibilité de parler la même langue autrement sans qu'on reste attaché, sans même s'en rendre compte, à une conception identitaire de la langue dont les frontières correspondent, une fois encore, à celles de l'État-nation. Roland Barthes explique très bien comment on peut se laisser enfermer dans la langue, ou plus exactement dans une certaine manière de concevoir la langue, et comment il est possible de s'en sortir. Vous avez peut-être déjà entendu de Barthes, qu'on ne prononce pas Barthès ni Barthès, de même qu'Albert Camus ne se prénomme pas Stéphane. Mon ironie peut sembler être un coup bas ici, mais je finis par me demander s'il n'y a pas là un symptôme de la force de subversion de la littérature qui décidément résiste et provoque des lapsus à répétition. Roland Barthes, donc, est un critique littéraire né en 1915 et mort en 1980, qui a profondément renouvelé la manière d'étudier et de lire les textes. Il a prononcé une importante leçon inaugurale au Collège de France en 1977 dans la chaire de sémiologie, c'est-à-dire d'études des signes. Je vous propose de lire un extrait de cette leçon inaugurale qui se trouve à la première page de l'exemplier que je vous ai distribué. Je vais commencer par vous lire in extenso cette assez longue citation et puis je la commenterai point par point. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Parler, et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une rétion généralisée. La langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Si l'on appelle liberté non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, il ne peut donc y avoir de liberté que hors du langage. Malheureusement, le langage humain est sans extérieur. C'est un huis clos. À nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi, ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature. Vous aurez sans doute deviné que j'ai décidé de commencer la citation là où j'ai décidé de la faire commencer, parce qu'elle s'inscrit de manière remarquablement explicite dans le thème qui nous intéresse, pouvoir et contestation. Dans la phrase qui suit, Barthes affirme que la langue ne sert pas à communiquer, mais à exercer un pouvoir, ce qui est un peu moins évident à comprendre. C'est assez évident cependant quand on pense à des mots qui servent à faire. Quand je dis « je le jure », par exemple, je ne communique rien, je fais. Mais plus largement encore, quand je dis « je suis heureuse de vous parler », je ne peux pas échapper au féminin qui me caractérise par la déclinaison de l'adjectif « heureuse ». Je ne peux pas non plus éviter une manière de catégoriser qui me distingue de vous en vous transformant en complément d'objet du verbe « dire » dont je suis le sujet. Ou « parler », « je vous dis », « je vous parle ». La grammaire est donc une législation, non seulement parce qu'il faut obéir à ses règles, mais aussi parce qu'elle semble imposer un ordre au monde. C'est en cela que Barthes affirme que la langue est fasciste, ce qui est bien évidemment à dessein provocateur. L'emploi de cet adjectif n'a pas manqué de susciter de nombreuses réponses, et j'ai mentionné dans la bibliographie un ouvrage qui répond assez directement à cette affirmation de Roland Barthes, et qui s'appelle « La langue est-elle fasciste ?» derrière cette provocation, on retrouve au fond une vieille idée qu'on connaît bien, et qui est celle du génie de la langue. On parle volontiers de ce qui est intraduisible d'une langue à une autre, et ce sont souvent les mêmes exemples qui reviennent, le Sehnsucht en allemand, le Saudade en portugais. Mais ce que Barthes a en vue relève moins du lexique que de la syntaxe. Encore une fois, là où la langue oblige à dire, c'est qu'elle impose le féminin, le masculin, le sujet, l'objet. La solution inattendue proposée par Barthes, c'est la littérature. En quoi la littérature permettrait-elle de déjouer le piège de la langue ? Il me semble que la véritable subversion de la pensée de Barthes se trouve ici, non pas dans la provocation qui consiste à qualifier la langue de fasciste, mais dans la manière de révéler un paradoxe. Les auteurs qui rendent la langue géniale, ce qui fait qu'on parle du génie de la langue, ne cessent d'en modifier les contours. Les grands écrivains, aurais-je envie de dire, défont la langue, au moins autant qu'ils la font. Et on les considère comme grands, justement dans la mesure où ils déjouent les habitudes de la langue. Autrement dit, les écrivains qui rendent la langue géniale nous la rendent aussi toujours étrangère. Et c'est précisément parce qu'elle repousse les frontières de la langue que la littérature est une forme de contestation du pouvoir de la langue. Je crois que l'apprentissage littéraire, du moins en ce qui me concerne, a consisté d'abord à désapprendre la langue française, à me défamiliariser avec elle. J'aurais pu choisir de lire avec vous un texte qui donne à lire, à voir la banlieue sous un autre jour. Mais l'expérience que je vous propose est différente. C'est celle d'un texte qui invente une langue dans la langue au point de transformer le français en langue quasiment étrangère. Je vous propose donc de retourner l'exemplier que je vous ai distribué pour prendre le poème encadré. Et je crois que vous serez d'accord avec moi pour constater qu'il ne suffit pas d'être francophone pour comprendre Mallarmé. Je vous lis le texte. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse se minit, soutient l'empadophore, main rêve vespérale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire renfort. Sur les crédences au salon vide, nul pique. Aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au Styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche la croisée au nord vacante un or, agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une nuque. Elle, défunte nue en le miroir encore, que dans l'oubli formé par le cadre se fixe, se scintille à sillon, sitôt le sépulcre. Il s'agit d'un sonnet, donc d'une forme extrêmement contraignante, formée de deux quatrains et de deux tercets. Ici, les vers sont en alexandrin, font donc 12 pieds, d'où la nécessité d'un certain nombre d'ajustements à la lecture, notamment l'apocope, vous voyez disparaître le E d'encore, ou encore la diérèse, il faut lire scintillation et non scintillation, pour avoir les 12 pieds nécessaires à la formation de l'alexandrin. Vous constatez aussi que les rimes sont croisées et qu'il s'agit de rimes rares en X et en or. Une fois que nous avons dit ça, nous n'avons pas beaucoup expliqué le texte. Toute la difficulté tient, me semble-t-il, au fait qu'il semble écrit dans une langue autre. En fait, la forme des mots, je viens de le montrer, est modifiée. On ne peut plus non plus se fier à la syntaxe, puisque l'organisation des mots dans le vers ne correspond pas à la grammaire du discours ordinaire. On ne peut plus non plus se référer au sens habituel des mots. Tout se passe comme s'il nous fallait oublier le dictionnaire et la grammaire pour les réapprendre à partir du texte. L'exemple le plus spectaculaire est sans doute du mot qui apparaît au cinquième vers à la rime, psyx. Dans sa correspondance, Mallarmé montre à quel point il était soucieux de vérifier que ce mot ne pouvait exister dans aucune langue. C'est pas un mot de français, c'est un mot de Mallarmé. C'est un mot à la rime. C'est un mot qu'on ne peut pas comprendre même en consultant tous les dictionnaires du monde et qu'il faut, pour pouvoir l'interpréter, gloser comme le fait le vers suivant, aboli bibelot d'inanité sonore. Qu'est-ce qu'un pic ? C'est une rime. C'est un mot rien. C'est une absence de signification du mot. C'est un bibelot qui ne veut rien dire, mais qui résonne à la rime. D'où les deux titres qu'on donne en général à ce poème, sonnet allégorique de lui-même, ou sonnet en X, c'est une manière de dire que ce texte, précisément, ne veut rien dire. Il ne réfère pas au monde, mais uniquement à lui-même. Pour pouvoir expliquer et comprendre ce poème, il faut donc tout d'abord cesser de se demander ce qu'il veut dire, de quoi il parle. Il ne transmet en effet aucun message. C'est le contraire d'une littérature dont l'engagement viserait à modifier directement le monde, sauf que s'opère une transformation radicale de notre rapport au monde par une opération radicale exercée sur la langue. Il s'agit sans aucun doute d'un cas extrême, mais je crois qu'il est aussi extrêmement révélateur du travail opéré par la littérature sur la langue familière. C'est bien en cela que la littérature, à mon sens, procure un plaisir singulier, qui demande un effort, bien sûr. Les mots cessent d'aller de soi, ils redeviennent sauvages, il faut les réapprivoiser. Le rapprochement entre le parler des banlieues et un poème de Mallarmé ne vise pas à établir une comparaison en prétendant par exemple qu'un locuteur de banlieue est un peu comme Mallarmé, qui me semblerait relativement de mauvaise foi. La lecture d'un poème de Mallarmé ne permet pas non plus d'apporter des solutions concrètes à ce qui constitue indéniablement une source de difficulté pour un nombre conséquent de locuteurs français qui s'avèrent n'être pas reconnus comme tels. Ce qu'apporte le détour par la littérature, c'est plutôt une manière de déplacer les questions. Je suis sûre que les questions que vous allez poser seront beaucoup plus pertinentes que les miennes, mais puisque j'ai listé six présupposés, je vais m'efforcer de rendre ma critique constructive en proposant six questions qu'à partir du détour par la littérature, on pourrait poser peut-être différemment aux problèmes qui nous occupent aujourd'hui. Première question. On pourrait peut-être se demander pourquoi la langue française reste si fortement identitaire. Pourquoi notre manière de penser et de parler le français n'est guère hospitalière pour d'autres manières de parler la même langue. Deuxième question. On pourrait se demander peut-être comment fonctionnent les instances de légitimation qui déterminent où finit la bonne langue et où commence la mauvaise. Parce que la norme, à l'évidence, n'est pas une donnée naturelle. C'est une construction qui repose sur des institutions, sur des dictionnaires, sur des idéologies, sur des discours comme les trois que je viens de critiquer. Troisième question. On pourrait se demander si la locution « jeune de banlieue » n'est pas un figement de langue morte qui illustre davantage l'efficacité de la langue de bois que la richesse de la langue française. Quatrième question. On pourrait arrêter de regretter que les jeunes de banlieue, ceux qu'on appelle comme tels, utilisent la langue pour n'être pas compris, et se demander s'il existe une seule époque et un seul endroit du monde où les jeunes n'ont pas fabriqué des codes pour n'être pas compris des adultes. Le problème se déplace alors d'un cran, et il s'agit de savoir pourquoi se parler jeune se prolonge dans le temps, et on rencontrera alors vite des enjeux qui cessent d'être purement linguistiques. On pourrait, cinquième question, se demander quels sont ces mots que personne ne semble entendre, faisant comme s'il n'existait pas, alors que certains se mettent à entrer dans les dictionnaires officiels et que d'autres ont leur propre dictionnaire dans lesquels on trouve des perles et des plaisirs absolument magnifiques. J'en ai un autre que j'ai perdu. Sixième et dernière question. On pourra surtout se demander quelles sont les questions qu'on évite de se poser en s'arrêtant sur les présupposés de la langue des jeunes de banlieue. À ces questions, il n'est pas forcément possible de trouver des réponses. Mais elles indiquent peut-être qu'il est moins souhaitable de trouver des solutions pour les jeunes de banlieue que de se donner les moyens de dialoguer avec celles et ceux qu'on désigne par cette étiquette. Ce dialogue révélerait la très grande conscience de nombreux locuteurs qui se revendiquent eux-mêmes comme étant de banlieue, la très grande conscience donc qu'ils ont du pouvoir des mots et qu'ils utilisent pour dire très clairement les difficultés sociales, économiques et politiques qu'ils rencontrent. Avant de conclure, j'aimerais céder la parole pour que nous écoutions ensemble une chanson qui n'est finalement pas plus difficile à entendre que Mallarmé et qui me semble résumer très bien ce que j'ai essayé de dire. Ça tombe très bien, je commence. Vous avez les paroles de la chanson au bas de la deuxième page de l'exemplier. Et je recommence. Pas grand chose à ajouter. J'aimerais juste, en guise de conclusion, ou plutôt en guise d'ouverture pour le débat, redire que grâce à la littérature, je crois que nous pouvons nous sentir tous ensemble dans la langue comme des étrangers, au lieu de nous servir de la langue pour tracer des frontières. Khatibi, qui est un écrivain que nous retrouverons à la prochaine séance, affirme, et je cède une dernière fois la parole avant de me taire, la langue française n'est pas la langue française. Elle est plus ou moins toutes les langues internes et externes qui la font et la défont. Je vous remercie.